France Culture.
Trompé, alors, cher ami, reprenons un verre. Les trafiquants d'armes est paru aux éditions de L'Olivier.
Merci, François Angelier. Un grand merci à toute l'équipe des Matins, Isabelle de Gomain, Mathilde Tonfourcade, Aline Biette, Emma Lichtenstein, Marguerite Caton, Juliette Deveau, Angelico Guémard et Simon Denis. À la réalisation, Daphné Leblond. À la réalisation des journaux, ce matin, il y avait Nicolas Pommet et Julien Loquet. Et à la prise de son, Marie-Claire Oumabadi et Clara Galivelle. Je crois qu'il est presque temps de retrouver Xavier Mauduit pour le cours de l'histoire. Mon cher Xavier, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Lémarie. Jean, vous savez que toute la semaine dans le cours de l'histoire, nous allons tenter de séduire les foules par la parole. C'est pas rien, c'est tout un programme.
C'est votre programme, il est 9h sur France Culture.
Et aujourd'hui particulièrement, nous allons parler en perdre la tête, l'éloquence révolutionnaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Parler à en perdre la tête, l'éloquence révolutionnaire. En 1894, un siècle après la chute de Robespierre, le député républicain Joseph Reynarque fait paraître l'éloquence française depuis la Révolution jusqu'à nos jours, un livre destiné aux élèves de lycée. Et pour introduire son recueil de textes, où se rencontrent alors Mirabeau, Saint-Just, Camille Desmoulins, Danton, encore Condorcet, il pose l'éloquence comme le moteur de la Révolution. L'éloquence française a rempli le monde de son bruit. Elle a renversé des trônes et failli sauver des monarchies, écrit-il. Elle a été à la fois l'épée et le bouclier de la liberté. On ne citerait pas une réforme politique ou sociale qui ne soit née de la tribune. Parole révolutionnaire.
Pourquoi l'éloquence est-elle si forte en estime chez les républicains ? C'est que dans la forme de leur gouvernement, l'éloquence ouvre la carrière des richesses et des grandeurs. Dans les pays despotiques, au contraire, si l'on fait peu de cas de cette même espèce d'éloquence, c'est qu'elle ne mène point à la fortune, c'est qu'elle n'est dans ces pays de presque aucun usage et qu'on ne se donne pas la peine de persuader lorsqu'on peut commander.
Daniel Königsberg, dans le cours de l'histoire, qui nous disait cet extrait d'Helvétius, Claude Adrien. Helvétius, le philosophe, vraiment philosophe des Lumières. Nous étions en 1758 avec cette évocation de l'éloquence. Hélène Parent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Lorraine. Et Élise Papy-Guilbert, bonjour.
Bonjour Xavier Mauduit.
Maîtresse de conférence à l'Université Bordeaux-Montaigne et membre de l'Institut universitaire de France avec... Vous deux, nous allons réfléchir à cette idée d'éloquence. Commencer une émission sur l'éloquence révolutionnaire par un extrait des philosophes des Lumières, c'est pour évoquer cet effet de génération, parce que ces révolutionnaires ont appris à parler bien avant que la révolution commence. C'est quoi les procédés de rhétorique et d'éloquence au XVIIIe siècle ? Qu'est-ce qui prime d'ailleurs ?
Alors, au XVIIIe siècle, en fait, ce qui compte, c'est que ces orateurs révolutionnaires, ils sont en fait instruits. Pour la plupart, ils sont issus des milieux de la bourgeoisie, de la robe, et ils sont donc instruits dans les collèges religieux, dans les collèges jésuites, les collèges oratoriens. Et en fait, c'est dans ces institutions-là qu'ils apprennent la rhétorique, et qu'ils apprennent la rhétorique classique depuis des siècles. Enfin, voilà, ce sont des institutions d'ancien régime, et ils apprennent la rhétorique classique dans ces institutions, qui est en fait tout un ensemble de procédés issus de l'Antiquité, qui sont bien sûr revisités en contexte chrétien, évidemment. Et c'est dans ce contexte que tous ces orateurs sont formés, en fait, de la même manière. Ce qui explique, et on va sûrement être amené à en reparler, le fait que, finalement, l'éloquence révolutionnaire ne donne pas l'impression d'une rupture majeure au niveau du style par rapport aux discours qui peuvent avoir lieu, que ce soit dans les parlements, dans les tribunaux, dans les académies... au XVIIIe siècle, mais simplement, on a l'impression, voilà, d'une continuité d'une langue qui est très classique, et c'est dû à cette formation qui est aussi également un petit peu un formatage rhétorique, où on va notamment imiter les auteurs anciens, ce qui explique aussi qu'il y a beaucoup de références aux auteurs anciens, notamment latins, dans les discours de l'Assemblée, des assemblées révolutionnaires.
Il y a deux mots qu'on va utiliser aujourd'hui dans l'émission, c'est rhétorique et éloquence. On peut essayer de les définir, montrer ce qu'il y a en commun et peut-être ce qu'il y a aussi de différent.
Alors peut-être qu'on pourrait dire que la rhétorique, c'est vraiment un ensemble de règles de la parole, tandis que l'éloquence, on va être plutôt du côté de la performance orale. Donc voilà, il y a l'article de l'encyclopédie de Voltaire, hein, c'est Voltaire qui écrit cet article « Éloquence ». Il dit que la rhétorique, c'est comme des règles de grammaire, hein, et que l'éloquence donc naît et existe avant la grammaire, comme la langue naît et existe avant la grammaire. Voilà.
Et l'un va passant l'autre.
Oui.
Voilà, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et en même temps, on observe un infléchissement au XVIIIe siècle, justement, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, sous l'influence des penseurs des Lumières. Alors bon, je fais un paquet un peu général avec les penseurs des Lumières, même si évidemment il y a des distinctions entre les différentes individualités. Mais ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus va être remise en question cette pédagogie rhétorique un peu, enfin qui formate un petit peu, et va être valorisée justement la notion d'éloquence comme étant, alors on va parler notamment de Rousseau, mais qui va plutôt voir l'éloquence comme une sorte de don qui permet, voilà, de communiquer entre les êtres, l'éloquence du cœur qui parle au cœur, sans passer justement par tous ces moyens rhétoriques qui sont vus comme un petit peu artificiels. Et en même temps, ces moyens, on en revient toujours à eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'éloquence sans la rhétorique, finalement. C'est le grand paradoxe qui commence à émerger, enfin qui émerge en tout cas, qui ne commence pas, mais qui est de plus en plus théorisé au XVIIIe siècle et qui va être au cœur des discours révolutionnaires aussi.
Voilà, mais comme vient de le dire Hélène, c'est sûr que dans les années 50, on commence vraiment à critiquer quand même la rhétorique et à proposer donc une éloquence du cœur. Et c'est vrai que c'est Rousseau sans doute celui qui condamne le plus la rhétorique. Et il y a cette phrase dans l'essai sur l'origine des langues où il dit il y a des langues favorables à la liberté et les nôtres sont faites pour le bourdonnement des divans. Et après, il dit justement que une langue qui ne peut pas être comprise d'un peuple assemblé, c'est une langue servile. Donc c'est vraiment une critique justement de ces langues un peu artificielles. Et là, bien sûr, on reconnaît derrière Rousseau la Boétie, hein, la langue comme instrument de servitude ou de liberté. Et donc c'est déjà le procès de la rhétorique qui commence.
Avec l'idée que la rhétorique peut manipuler les gens, c'est un peu ça la critique, qu'en utilisant ces procédés de construction du discours, on peut orienter les esprits parfois, pas pour atteindre la vérité, et c'est là que ça pêche.
Oui, peut-être qu'elle peut manipuler, mais qu'elle peut aussi paraître un peu artificielle, scolaire, comme l'a dit Hélène. Il y a une phrase de Voltaire qui dit que dans son collège, il a appris le latin et des sottises. Donc comme si aussi le latin était aussi un peu une sottise, quoi. Donc il y a cette condamnation de la rhétorique comme ensemble de règles un peu scolaires, surannées.
Oui, alors effectivement, il y a la dimension scolaire. En fait, la critique contre la rhétorique, elle est multiple. Il y a la critique contre une institution scolaire qui serait assez, finalement, qui formaterait. Il y a l'idée de la tromperie, qui est toujours à l'horizon de la rhétorique, mais ça, c'est ce qui était un peu au cœur de l'émission sur les sophistes, justement. Et puis, il y a aussi toute l'idée, alors qui va émerger dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais surtout pour le coup au moment de la Révolution, c'est l'idée de la rhétorique comme étant une parole aristocratique, corrompue, dégénérée, comme diraient les orateurs révolutionnaires, justement, qui veulent régénérer la parole.
Ouais. Avec une parole très présente sous l'Ancien Régime, on l'oublie souvent, dans les tribunaux, parce que nous sommes dans un monde où les avocats, les magistrats ont une place très importante. D'ailleurs, c'est ce qu'on va retrouver après sous la Révolution, parce que ça a été un petit peu évoqué, mais ces révolutionnaires, ils sont formés dans ce monde-là, dans ces écoles-là, et donc ils maîtrisent la rhétorique. Important, hein, toujours pour critiquer quelque chose, de maîtriser ce que l'on critique.
Oui, alors absolument, d'autant que les orateurs révolutionnaires, donc j'ai dit qu'ils étaient formés dans les collèges pour la très très grande majorité d'entre eux, mais en plus pour, en tout cas, ils sont également issus, comme je disais, du milieu de la bourgeoisie, de la robe, et très souvent ils sont issus du milieu juridique, en fait. Enfin, ils sont issus. Ils travaillent dans le milieu juridique avant la Révolution. Je vais parler des plus connus, mais par exemple Robespierre, c'est un avocat avant d'être un orateur révolutionnaire, évidemment. Donc c'est des gens qui sont habitués, ce sont des gens qui sont habitués à plaider, et c'est aussi des gens qui sont habitués à l'éloquence académique, puisque ce sont des gens qui ont pour la plupart une place dans les académies, alors que ce soit les académies parisiennes ou provinciales, mais qui en tout cas vont participer à des prix d'éloquence académique, qui sont souvent, alors qui ne sont pas du tout de l'éloquence politique, évidemment, puisque l'éloquence politique n'a pas vraiment lieu d'être dans une monarchie absolue, en tout cas pas sous la forme de l'éloquence parlementaire, mais déjà dans ces académies, on peut commencer à en faire des lieux où va un petit peu entrer la délibération, notamment à travers la pratique des éloges ou des blâmes de personnalités, de grands écrivains, on va pouvoir commencer à véhiculer en fait des idées politiques.
Donc, Là, c'est du côté de la rhétorique épidictique, quoi. Ouais. L'éloge ou le blâme, c'est vraiment une des catégories quand même majeures de la rhétorique.
Épidictique,
voilà, l'éloge et le blâme.
L'éloge et le blâme. Non, mais c'est formidable de faire une série d'émissions sur la rhétorique et l'éloquence parce qu'on apprend énormément de mots. Nous évoquons les tribunaux, c'est vrai que les avocats prennent la parole, les magistrats aussi. Nous sommes dans un monde où l'Église est très présente. L'éloquence ou la rhétorique religieuse, c'est quelque chose qui demeure important. Et on le voit bien dans toutes les parutions. Hein. Les sermons sont publiés. Tous ces textes-là aussi sont constitutifs de l'imaginaire de toutes les personnes dont nous allons parler au moment de la Révolution française. C'est très présent.
Oui, alors c'est très présent. Alors bon, il y a des membres du clergé hein, qui vont notamment, on pense au plus connu, c'est sans doute l'abbé Grégoire. Donc des gens qui sont aussi formés à la prédication et donc à séduire les foules dans un autre contexte. Alors l'enjeu n'est pas le même parce qu'évidemment quand on est prédicateur, on se réclame d'une parole transcendante qui est la parole de Dieu. Alors que quand on doit séduire une foule en politique, il n'y a pas de parole transcendante par définition. Il n'y a pas de vérité transcendante. Donc c'est présent et même si le modèle est complètement, enfin le public notamment et le but est complètement différent. Après, dans la question de la prédication, il y a aussi, et comme dans l'éloquence, comme dans tout type d'éloquence, il y a cette idée qui apparaît aussi dans la seconde moitié du XVIIIe siècle une idée vraiment de cohésion, de communauté. Faire communauté, c'est vraiment ça le but de l'éloquence. Et il y a cette métaphore qu'on retrouve sous énormément de plumes, notamment je pense à la plume un peu plus tardive de Germaine de Staël, qui est la métaphore de l'électricité, qu'on retrouve chez Diderot aussi. L'électricité qui passe entre les êtres qui écoutent un discours. Et on avait déjà cette métaphore chez Cicéron, alors évidemment avec d'autres, voilà, il parle de la flamme, hein, l'électricité chez Cicéron, il n'y avait pas. Mais c'est la même idée, en fait, c'est l'idée d'une contagion de l'émotion.
Avec Germaine de Staël, personnage formidable hein, de cette période, qui a été témoin de tous ces bouleversements et qui, en 1798, réfléchit à l'éloquence.
L'éloquence consacrée à la défense des grandes vérités est encore un grand pouvoir en France. Il faut que cette éloquence adopte pour but les résultats du calcul. Mais quelle puissance l'âme, le caractère qui se peint dans les mouvements oratoires ne donne-t-elle pas la vérité? C'est la vie de la pensée que l'éloquence. Elle fait passer les idées dans le sang, elle transforme en impulsion électrique la conviction du raisonnement, l'analyse du devoir, et ramène l'homme à sa nature physique, non pour l'avilir, mais pour l'enflammer. Elle fait battre son cœur, couler ses larmes. Elle lui inspire le courage, la vertu, le dévouement de soi-même, comme des mouvements involontaires qu'aucune réflexion ne pourrait arrêter. Heureuse la France, si ses talents vainqueurs réapparaissent encore à sa tribune. Qui peut s'élever au sommet de l'éloquence sans parler le langage de la justice et de la pitié?
Ce n'était pas Germaine de Staël, c'était Daniel Königsberg qui nous disait Germaine de Staël en 1798 avec des textes, hein, des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution et des principes qui doivent fonder la République. Germaine de Staël, c'est la fille du grand ministre Necker sous Louis XVI. On a ici une réflexion sur l'éloquence. C'est quelque chose qui nous vient des Lumières, cette réflexion-là. C'est-à-dire qu'il y a un trait à tirer de la réflexion des philosophes des Lumières à ce qui se passe pendant la Révolution. Et même si en 1798, on peut s'interroger si la Révolution est terminée ou pas, elle ne l'est pas, on a quelque chose qui se passe, un fil conducteur, mais avec des variations énormes. Il se passe quelque chose autour de l'éloquence dans cette période.
Tout à fait. Et là, Germaine de Staël, on le voit peut-être moins dans cet extrait, mais l'électrisation, etc., la langue du cœur, le style de l'âme, elle emprunte aussi, évidemment, déjà ce qu'on a dit à Rousseau. Hein, et elle commence d'ailleurs, entre guillemets, sa carrière littéraire par des lettres sur le caractère et les ouvrages de Rousseau, alors qu'elle a 22 ans. Donc là, on est en 1798, elle a vieilli, évidemment, mais il y a toujours cette idée, donc, chez Staël, on le retrouve aussi en 1800 dans de la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales. Il y a toujours cette idée de mêler le raisonnement et le sentiment. Hein, donc, on voit ici qu'elle est très rousseauiste hein, par ce fait. Mais évidemment, elle a été en quelque sorte marquée par les traumatismes ou la violence révolutionnaire. Donc, elle condamne aussi le fanatisme dans la langue. Elle dit que il y a des expressions révolutionnaires qui ont été inventées qui sont des paradoxes en eux-mêmes, hein, comme le despotisme de la liberté. Donc voilà, chez Staël, on a une valorisation de l'éloquence, mais elle dit que l'éloquence est toujours bien. Il y a un chapitre qui est consacré à l'éloquence, hein, l'avant-dernier chapitre de la littérature. Mais parfois, elle dit que c'est le raisonnement quand même qui est faux. Donc, c'est pas le fait de croire à ce qu'on dit, ça c'est bien. Mais malheureusement, parfois, le raisonnement peut être faux. Voilà.
Et puis ce mot qui a été prononcé, d'émotion, est au cœur aussi de toutes ces réflexions. Hein. Par l'éloquence, c'est savoir passer une émotion. Et on connaît bien, hein, au siècle des Lumières, comment l'émotion arrive et est présente, parce que la rhétorique a quelque chose de froid. Enfin, je le perçois comme tel. Est-ce que c'était perçu de la même manière? La rhétorique, c'est froid, c'est carré, c'est un art. Il faut suivre des règles, alors que l'éloquence, ça y met de l'humain.
C'est ça. En fait, c'est aussi, ce que vous venez de dire, c'est aussi au cœur de la distinction rhétorique-éloquence. Voilà, la rhétorique, c'est quelque chose qui est extrêmement réglé, alors que l'éloquence, c'est, il y a la chaleur. Il y a beaucoup, d'ailleurs, vous avez employé l'adjectif froid. Il y a vraiment beaucoup, on trouve beaucoup de cette opposition sensorielle, en fait, entre le froid, le chaud. Et je parlais de l'électricité tout à l'heure. Il y a vraiment une dimension sensorielle, presque sensuelle, en fait, dans l'éloquence. Cette idée qu'on touche, d'ailleurs, d'où l'expression, quand on dit toucher les cœurs, toucher quelqu'un, hein, c'est vraiment ça vient vraiment de là, en fait. C'est vraiment l'idée que par l'éloquence, on doit pouvoir agir directement presque sur le corps, en fait, de l'auditoire ou de l'auditeur. Donc oui, c'est tout à fait important. Et cette idée d'émotion, d'ailleurs, elle vient de... Enfin, évidemment, elle est centrale, elle est d'autant plus mise en avant dans la seconde moitié du XVIIIe siècle avec la pensée de Rousseau, entre autres. Hein. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, puisque ça vient des rhéteurs antiques, ça vient de Cicéron, notamment. Alors qui est passé par tout un ensemble de réécritures, de réinterprétations, mais c'est vraiment cette trame-là, ce qu'on a en latin le movere, c'est vraiment ça, c'est faire bouger, faire émouvoir, faire mouvoir la personne, le public. Voilà. Donc ça, c'est vraiment dès l'Antiquité, on a cette idée que émouvoir, c'est l'un des devoirs de l'orateur.
Rousseau a été cité au moins 3 fois depuis le début de cette émission, Élise Pavie-Guilbert. Il est important, Rousseau, dans cette histoire-là. Rousseau, personnellement encore, je ne l'imagine pas comme un grand orateur qui saurait électriser les foules. Vrai. On ne l'imagine pas comme ça.
On ne l'imagine pas comme ça et lui-même ne se met pas en scène de cette façon. C'est-à-dire, dans les confessions, il se met en scène, au contraire, comme quelqu'un qui manie assez mal l'art de la parole. Il se présente comme quelqu'un d'un peu balourd, qui fait des mauvais jeux de mots ou des... quelque chose qui tombe à l'eau. Donc c'est effectivement, il se représente aussi, mais c'est aussi une stratégie, puisque finalement, de dire qu'il ne maîtrise pas l'art de la parole, c'est condamner une langue qui va être mondaine, justement, tandis que lui veut une langue en prise avec le monde. Hein. Donc il y a cette opposition quand même chez Rousseau, qui est le fait de dire qu'il fait toujours des fautes de style et qu'il est maladroit avec la parole, c'est aussi une façon de revendiquer justement un autre statut pour la littérature. Et je crois qu'on voit aussi dans ces années 50-80 un passage important en fait de l'ancien régime, qui est le régime des belles-lettres, hein, où la littérature est belles-lettres, art mondain, de civilité, d'urbanité, de bel esprit. A donc un nouveau régime qui est celui de la littérature, hein, considéré bien donc dans ses rapports avec les institutions sociales, hein, comme dirait Stahl, mais aussi considéré comme un engagement dans le monde, une prise de risque assumée dans le monde. Et ça, ce passage des belles-lettres à la littérature, c'est aussi ce qu'essaye de faire Rousseau en revendiquant finalement un droit de mal dire, hein, de mal écrire et de mal dire. C'est vraiment ce qui est revendiqué chez Rousseau.
Je rebondis sur ce que vient de dire Élise Pavie-Guilbert sur effectivement on retrouve ce lieu commun qui est un peu une stratégie, même si évidemment ça peut être aussi sincère, mais c'est l'idée que la véritable éloquence se moque de l'éloquence, c'est-à-dire que ça on va le retrouver énormément chez les orateurs révolutionnaires, pour le coup beaucoup par stratégie politique et rhétorique, hein, c'est de dire moi je parle vrai entre guillemets, vous faites de la rhétorique. Et moi, même si je vais le dire maladroitement, etc., mais c'est signe que cette maladresse est le signe de la vérité. Donc c'est assez intéressant, c'est très paradoxal, parce que ne serait-ce que dire ça, dire je ne fais pas de rhétorique, c'est déjà un lieu commun rhétorique, c'est déjà un argument rhétorique, en fin de compte.
Après, avec des stratégies, je remondis aussi ce que tu viens de dire, Hélène, avec des stratégies aussi disparates et peut-être plus ou moins sincères. Par exemple, dans le cas des paroles féminines, il y a aussi, de fait, elles maîtrisent moins la rhétorique, ça c'est vrai. De fait, elles ont été moins éduquée. Donc, je ne sais pas, sous la plume d'Olympe de Gouges, quand elle dit « si j'écris mal, je pense bien, je n'ai pas l'art de Voltaire », il y a une part de posture, hein, une part d'éthos, mais il y a aussi une part de sincérité. Enfin, c'est les deux, en tout cas.
Oui, parce qu'il y a aussi cette parole féminine. Olympe de Gouges.
Ô divine Providence, toi qui dirigeas toujours mes actions, je n'invoque que toi seul. Les hommes ne sont plus en état de m'entendre. Si je dois périr par le fer des contre-révolutionnaires de tous les partis, inspire-moi dans mes derniers moments et donne-moi le courage et la force de confondre les méchants et de servir encore une fois, si je le puis, mon pays, avant mon heure suprême. Je lègue mon cœur à la patrie, ma probité aux hommes, ils en ont besoin, mon âme aux femmes. Je ne leur fais pas un don indifférent. Mon génie créateur aux auteurs dramatiques, il ne leur sera pas inutile. Surtout ma logique théâtrale aux fameux chéniers, mon désintéressement aux ambitieux, ma philosophie aux persécutés, mon esprit aux fanatiques, ma religion aux athées, ma gaieté franche aux femmes sur le retour, et tous les pauvres débris qui me restent d'une fortune honnête, à mon héritier naturel, à mon fils, s'il me survit.
Cette fois, Daniel Königsberg est au limbe de gauche. Nous sommes en juin 1793. Avec cette parole féminine, Élise Pavy-Guilbert, vous êtes co-autrice avec Florence Lautry d'Olympe de Gouges, Une femme dans la Révolution, publié chez Flammarion. Une femme dans la Révolution, une parole dans la Révolution. En quoi la parole féminine dans la Révolution nous en apprend sur l'éloquence? Parce que le statut des femmes n'étant pas le même que celui des hommes, leur parole elle-même permet de mettre en perspective sans doute l'éloquence, en général, l'éloquence masculine et féminine.
Tout à fait. Justement, elles n'ont pas a priori l'art de la parole puisqu'elles sont moins éduquées et elles revendiquent une écriture plus naturelle, une langue plus naturelle. Et chez Olympe de Gouges, c'est vraiment ça. Si j'écris mal, je pense bien. Ou alors, elle dit qu'elle est plus naturelle qu'éloquente. Voilà mon cachet. Donc, c'est cette revendication, donc une part de sincérité et une part de posture, évidemment. Une part d'éthos et une part d'étopée. De portrait moral, mais tout de même, il y a cette, il est vrai, cette maîtrise moins et cette possibilité même moindre de parler aussi. Après, il faut revenir un peu sur ces choses parce que finalement, chez tous les textes, alors chez Olympe de Gouges, mais aussi évidemment bon, chez Manon Roland, mais qui a un autre statut social, ou alors chez Anne-Joseph Terroigne de Méricourt, on a quand même une culture savante aussi de ces femmes. Elle, Olympe de Gouges, elle cite le vers de Terence, bon, qui est un vers ultra connu au 18e, Homo sum et nihil humani ame alienum puto, je suis homme, je suis humain, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Donc il y a quand même des vers de Terence, des phrases d'Ovide, etc. Donc elles ont ça circule, alors elles ont cette connaissance, elles se débrouillent en quelque sorte pour obtenir ces connaissances. Donc il y a une différence, évidemment, de parole, mais surtout de position, de place de cette parole, tandis que parfois la culture est quand même une culture commune qui mêle culture savante et populaire. Mais finalement, bon, l'extrait est magnifique, qui a été lu, c'est quand même un bel extrait d'éloquence funèbre, funéraire, elle va mourir, et elle va vraiment mourir. Et là, au contraire, on voit une sorte d'uniformité de cette éloquence funèbre, de ces ultima verba, les derniers mots. Et là, c'est un texte, ici, d'Olympe de Gouges, qui ressemble aussi aux derniers mots de Manon Roland, et qui peut même ressembler au dernier mot, évidemment, d'homme. Donc il y a cette parole qui est aussi commune, tout de même.
Olympe de Gouges, qui est guillotinée en novembre 1793, avec des passages obligés, j'ai presque envie de dire. Et depuis qu'on échange, on l'entend, il y a au milieu de la rhétorique, au milieu de l'éloquence des genres, alors les derniers mots, le grand discours, l'idée de convaincre, parce que l'éloquence se déploie dans toutes les circonstances où l'on peut prendre la parole. C'est pas la même chose de prendre la parole face à une foule dans une assemblée ou d'essayer de convaincre dans une taverne quelques amis. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même cette maîtrise-là des hommes et des femmes, en l'occurrence avec Olympe de Gouges. On le ressent, Hélène Parent ?
Oui, alors en fait, ça me permet de rebondir sur ce que vient de dire Élise à propos de la culture savante et de la culture populaire. On a un peu tendance à penser qu'il y avait voilà une élite très instruite, comme je l'ai dit tout à l'heure, instruite dans les collèges, et puis le peuple, pour faire simple, qui finalement n'était pas très instruit à cette époque. Alors c'est que partiellement vrai. En réalité, toute la culture scolaire, en fait, qui est pas forcément une culture savante, d'ailleurs. Parce que Élise faisait un certain nombre de citations, faisait référence à des auteurs antiques, par exemple, tout à l'heure. C'est vrai que c'est une culture qui est savante, mais pas tant que ça, finalement. C'est surtout un imaginaire qui circule au niveau aussi bien des ouvrages philosophiques que des peintures, des tableaux aussi. Toute la peinture néoclassique, par exemple, c'est aussi un imaginaire scolaire, et forcément, ça infuse au sein de la société. pensée. Et à partir de la Révolution notamment, ça infuse aussi énormément par la presse. Ces discours-là, les discours qu'on entend à la tribune, contrairement à ce qui se passait avant, où l'éloquence, qui n'était donc pas politique, hein, c'était pas une éloquence délibérative, elle restait beaucoup entre quatre murs, entre les murs du tribunal, entre les murs des parlements, des académies, des parlements au sens d'ancien régime. À partir de la Révolution, l'éloquence, elle se diffuse dans la presse, notamment à travers le genre du compte-rendu des discours, mais aussi dans la presse populaire, qui fait aussi des sortes de compte-rendus, mais en les adaptant, en les parodiant, il y a tout un ensemble de nouveaux types de discours qui vont apparaître et qui vont faire infuser en fait cette culture savante, cette culture scolaire, je dirais, voilà, qui est réinvestie dans le domaine politique, ce qui fait que des citations latines ou en tout cas dans leur traduction française peuvent tout à fait circuler énormément, y compris au sein de classes qu'on qualifierait aujourd'hui les classes populaires. Voilà.
Tout à fait, et même donc dans les journaux, comme tu le dis, mais aussi donc à travers les placards, les affiches, donc qui évidemment créent une culture beaucoup plus démocratique. Hein. Donc il y a toute cette vague d'éphémères, hein, ces travaux des historiens qui ont appelé ça la vague des éphémères, donc les journaux, les brochures, les libelles, les affiches, et toute cette vague évidemment consolide cette culture savante et populaire, parce que donc on a parlé beaucoup là de la culture savante finalement avec les latins, mais on a cette culture populaire qui est assez truculente avec tous les proverbes, voilà, qui sont très fréquents dans les affiches aussi, sous la plume d'Olympe de Gouges notamment. Donc j'ai senti qu'aux grands mots il fallait les grands remèdes. Bon, elle parle quand même de la mort du roi à ce moment-là, donc c'est sûr que c'est un grand remède. Et puis il y a aussi elle cite toujours le refrain chéri, ça ira, qui est évidemment l'emblème de la Révolution. Donc voilà, c'est cette culture aussi populaire et évidemment est très présente dans les affiches.
Et ce que vous citez là, c'est aussi le support de l'éloquence, parce que l'éloquence, nous l'associons à la prise de parole en public, mais l'affiche, c'est pas une prise de parole. Est-ce qu'on a entendu d'Olympe de Gouges le texte, là, il y a quelques instants? C'est aussi une brochure. Oui. C'est-à-dire que l'éloquence ne se porte pas uniquement avec la parole, on peut le dire comme
pas
ça?
Pas uniquement, vous avez raison, et en même temps, l'affiche, elle est élue. Hein, sans doute publiquement, devant un attroupement, de façon peut-être spontanée, puisque tout le monde ne sait pas lire, hein, évidemment, dans le peuple du 18e, même si, en fait, il y a quand même aussi énormément de gens qui savent lire. Donc, c'était évidemment écrit, hein, l'affiche, la brochure, mais voilà, c'est lu publiquement, c'est commenté, les affiches, elles sont arrachées, elles sont remplacées, donc on parle autour des affiches et des affiches, quoi, d'une certaine façon.
Hélène Parent.
Oui, alors justement, par rapport à ce qui vient d'être dit, en fait, l'éloquence, c'est aussi, depuis l'Ancien Régime, c'était déjà le cas, hein, c'est aussi une culture écrite, c'est une culture des belles lettres. On peut être éloquent à l'écrit, on peut être éloquent par voie de presse. En tout cas, disons que à l'époque, notamment, alors c'est encore plus vrai au moment de la Révolution, il y a une perméabilité beaucoup plus grande que ce qu'on imagine aujourd'hui entre l'écrit et l'oral, en fait. Notamment par rapport à ce que disait Élise tout à l'heure, en fait, il y avait quand même pas mal de gens qui ne savaient pas lire, mais les journaux étaient, les journaux ou les affiches étaient lus, étaient criés dans la rue. Je pense par exemple au titre du Père Duchesne, grande joie du Père Duchesne à l'annonce de, voilà, bon, tout ça c'était crié dans la rue, c'était lu à haute voix. Donc en fait, l'écrit et l'oral, l'éloquence finalement, elle peut être écrite, elle peut être orale, elle peut être les deux. Il y avait vraiment une continuité. Disons que le journal à ce moment-là, et ça va être le cas tout au long du 19e siècle, est en fait vraiment une chambre d'écho de la tribune. Voire parfois, le journaliste se considère comme un concurrent. Il y a déjà cette idée qui apparaît que le représentant du peuple, le député, il est potentiellement corrompu. Il y a déjà une sorte d'anti-parlementarisme qui commence à naître à ce moment-là. Le député, potentiellement, il est corrompu, il ne représente pas vraiment le peuple, et donc c'est le journaliste qui va se sentir investi de cette mission. Alors encore une fois, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, il y a des journalistes qui veulent approfondir la Révolution et d'autres qui veulent au contraire revenir sur les acquis révolutionnaires qui seraient plutôt contre-révolutionnaires.
Et dans cette histoire de l'éloquence, il y a toujours l'interrogation, que se passe-t-il au moment de la Révolution? Est-ce qu'il y a un changement? Et là, vous apportez un élément de réponse. Le développement de la presse transforme l'éloquence, parce que auparavant, évidemment, il n'y avait pas autant de journaux. Donc là, par exemple, on a un élément qui fait que la manière de dire n'est plus la même pendant la Révolution, parce que la presse publie des discours qui eux-mêmes vont être lus à haute voix parce qu'ils sont diffusés. Il y a un vrai changement là qui s'opère dans cette année 1789 et puis celles qui suivent.
Alors, en fait, c'est vraiment... Vous avez prononcé le mot, qui, je pense, qui convient tout à l'heure. Vous avez parlé de transformation. Plus les révolutionnaires, eux, vont penser en termes de rupture. C'est-à-dire qu'ils vont arriver en disant, voilà, on fait table rase. Évidemment, c'est une posture qui est importante, puisque quand on fait la révolution, il y a l'idée qu'on va revenir sur le passé. En réalité, il y a vraiment... Enfin, c'est plutôt... quand on étudie cette période, il faut plutôt, je pense, aborder les choses sous l'angle de la métamorphose. C'est-à-dire que, par exemple, on voit ce que je disais, je crois, au début de l'émission, hein, au niveau du style, au niveau de l'éloquence, de la manière d'écrire des discours, il n'y a pas de changement majeur. Bon, évidemment, il y a des changements politiques, hein, ça, c'est sûr, il y a des grands événements politiques. Et puis, il y a cette fameuse liberté de la presse hein, qui apparaît, bon, qui va être mise en cause à plusieurs reprises par la suite, mais qui apparaît en 1789. En fait, ce qui change, c'est beaucoup les lieux de l'expression, l'apparition de la tribune, les modalités, les conditions matérielles avec le journal et puis avec aussi cette tribune, cet espace de délibération qu'est l'Assemblée, qui change. Évidemment, les enjeux de cette parole. Parce que là, on a une parole qui va pouvoir avoir un effet. En fait, c'est ça surtout le grand changement. C'est que c'est une parole dont on sent tout de suite qu'elle va déboucher potentiellement sur des décisions et sur des actions. Ce qui n'était pas du tout le cas de la même manière auparavant, avant la Révolution.
Oui, on assiste à l'apparition du grand orateur, en fait.
Exactement. C'est une parole, effectivement, performative. Hein. Elle devient un acte, quoi. Ça, c'est vraiment parler pour faire, en fait. Hein. Les mots et les actes doivent coïncider. Et puis, on sort, quelque part, de cette culture un peu élitiste, quand même, du livre. Et justement, on va vers une culture plus démocratique, des journaux, des affiches, des placards, etc.
Et puis, les bonnes habitudes demeurent. C'est-à-dire que toute cette éducation, toutes ces références que ces hommes et ces femmes pouvaient avoir de la rhétorique et de l'éloquence restent toujours présentes pendant la Révolution française. Robespierre à la tribune.
Ce n'est point dans l'ascendant des orateurs qu'il faut placer l'espoir du bien public, mais dans les lumières et dans le civisme de la masse des assemblées représentatives. L'influence de l'opinion publique et de l'intérêt général diminue en proportion de celle que prennent les orateurs. Et quand ceux-ci parviennent à maîtriser les délibérations, il n'y a plus d'assemblée, il n'y a plus qu'un fantôme de représentation. Alors se réalise le mot de Thémistocle, lorsque montrant son enfant, il disait « Voilà celui qui gouverne la Grèce ». Ce marmot gouverne sa mère me gouverne, je gouverne les Athéniens, et les Athéniens gouvernent la Grèce. Ainsi, une nation de 25 millions d'hommes serait gouvernée par l'Assemblée représentative, celle-ci par un petit nombre d'orateurs adroits, et par qui ces orateurs seraient-ils gouvernés quelquefois? Je n'ose le dire, mais vous pourrez facilement le deviner. Je n'aime point cette science nouvelle qu'on appelle la tactique des grandes assemblées. Elle ressemble trop à l'intrigue. La vérité et la raison doivent seules régner dans les assemblées législatives. Je n'aime pas que des hommes habiles puissent, en dominant une assemblée par ses moyens, préparer, assurer leur domination sur une autre, et perpétuer ainsi un système de coalition qui est le fléau de la liberté.
Robespierre, en mai 1791, avec ici l'évocation de Thémistocle. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'on peine à retrouver quelle est la référence. Déjà, notre esprit cherche qui était Thémistocle, cet enfant brandi. C'est vrai qu'on n'a pas lu les mêmes livres. Hélène Parent, vous êtes l'autrice de Moderne Cicéron, la romanité des orateurs révolutionnaires, 1789-1807, publié chez Classique Garnier. Robespierre, ça y est, il fait les références comme une évidence et il est compris aussi.
Oui, alors, voilà, effectivement, bon, alors là, du coup, c'est une référence plutôt grecque. Hein, avec
oui, c'est grec, vous avez travaillé sur la romanité.
Moi, j'ai plutôt... Alors, pourquoi j'ai travaillé sur la romanité? Parce que c'est quand même principalement... Alors, votre exemple, l'exemple qui vient d'être lu n'est pas... Enfin, semble, du coup, contredire ça. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a aussi énormément de références à la Grèce, d'ailleurs. D'ailleurs, la référence grecque et la référence romaine sont tout à fait mêlées hein, dans les discours. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas une culture vraiment savante qui est véhiculée, c'est une culture scolaire où, finalement, les gens qui écoutent, parce qu'il faut pas oublier que le public de Robespierre, pendant qu'il parle là, c'est un public qui a la même culture que lui, c'est ses collègues de l'Assemblée. Donc tout le monde comprend. Alors nous, oui, c'est vrai que Thémistocle, c'est un peu plus loin, mais à l'époque, les gens à qui il parle, tout le monde comprend, tout le monde voit la référence. C'est pareil pour les références romaines qui sont très très fréquentes et qui apparaissent vraiment quasiment dans tous les discours, pas seulement dans ceux de Robespierre. Alors Robespierre, parlons-en quand même un petit peu, c'est quelqu'un qui qui reste un personnage avec un imaginaire extrêmement controversé. Il faut bien distinguer évidemment ce qui relève de la vérité et ce qui, enfin la vérité historique et ce qui relève de la légende noire qui a été construite après Thermidor, donc après sa chute. Et la chute de ses partisans, puisqu'il n'était pas tout seul à tomber au moment de Thermidor. Justement, ce qui est intéressant par rapport à la question de l'éloquence, c'est qu'on a beaucoup dit « Ah, Robespierre, voilà, c'est celui qui a une rhétorique violente, qui fait toujours référence aux Romains. D'ailleurs, il s'est pris pour un Romain, et c'est ça qui l'a rendu un peu fou et qui a fait qu'il a guillotiné tout le monde. » Si je caricature un peu ce qui est dit, bon, évidemment, c'est un peu rapide, mais c'est un peu comme ça qu'on le voit. Alors qu'en réalité, déjà, Robespierre, évidemment, c'était un personnage plus important que d'autres au moment de la Révolution, mais en définitive, son éloquence était tout à fait conforme à ce qu'était l'éloquence de tous les autres. Ce que j'ai essayé de montrer, moi, dans mes travaux, c'est vraiment qu'il y a un style collectif à ce moment-là, que l'éloquence révolutionnaire, c'est une œuvre collective. C'est pas juste Danton, Mirabeau, Robespierre et 3-4 autres. C'est vraiment un style collectif. Donc voilà. Par rapport à cette question de la référence antique, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une référence qui est à la fois évidemment un argument, une figure de style, hein, c'est-à-dire ce sont des analogies, des métaphores, des comparaisons romaines ou grecques, mais il y a également toute une théorie qui est toute la théorie cicéronienne du vir bonus dicendi peritus, l'homme de bien habile à bien parler. Il y a vraiment on retrouve chez les orateurs révolutionnaires cette idée que l'orateur, c'est pas seulement quelqu'un qui sait très bien s'exprimer, c'est aussi une personne intègre, un honnête homme, mais pas dans le sens de l'honnête homme de la cour de l'ancien régime, mais vraiment l'homme honnête. Hein, donc
Avez un exemple.
Alors, j'ai un exemple d'un discours, effectivement, de Marie-Joseph Chénier, qui a été prononcé à la Convention le 25 novembre 1793, qui intervient dans un contexte très particulier, qui est la dépanthéonisation de Mirabeau, parce que Mirabeau avait été placé au Panthéon. Entre-temps, a été découverte l'armoire, la fameuse armoire de fer, où on s'est rendu compte que Mirabeau était un traître qui complotait avec le roi, contrairement à ce que, justement, l'attitude qu'il montrait à la tribune. Et Marie-Joseph Chénier, qui est aussi également un dramaturge de la période révolutionnaire, mais également un orateur qui, à ce moment-là, se situe dans le camp montagnard, donc plutôt dans le camp proche de Robespierre, prononce le discours suivant. Cicéron définissait l'orateur un homme de bien, habile dans l'art de parler, et sans doute une définition pareille pouvait convenir à cet illustre Romain, dont le cœur et les mains étaient purs. Mirabeau, doué d'une partie des mêmes talents, suivit une route différente. Il n'eut de l'orateur que l'éloquence. Il en négligea la partie la plus essentielle, l'intégrité. Et c'est pour cela qu'exhumé par vous, sortant de son tombeau triomphal, il paraît aujourd'hui à votre barre et vient y subir son jugement. Le front dépouillé des lauriers de la tribune et de la brillante auréole qui, dans le panthéon français, lui garantissait l'immortalité.
Alors déjà, c'est très beau. On peut le dire, il y a une maîtrise de la langue, du vocabulaire, des images. On voit qu'un personnage comme Marie-Joseph Chénier, grand auteur au demeurant à côté, maîtrise bien les mots. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on attend ça aussi d'un bon orateur. Un discours comme ça, c'est un discours de quelle année ?
C'est 93.
Ouais, 1793. C'est formidable et c'est sans doute aussi pour ça que ces extraits de discours de révolutionnaires sont reproduits sans cesse par la suite comme des modèles d'éloquence. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, Marie-Joseph Chénier ? C'est-à-dire qu'il y mêle les références à l'Antiquité, les belles images. Enfin, quand même, il y a Mirabeau qui arrive à la tribune alors qu'il est dans son cercueil. Enfin,
Oui, alors ça, c'est, il y a vraiment une sorte, effectivement, c'est aussi une figure habituelle de la rhétorique, hein. C'est l'anécuia, c'est le moment qu'on retrouve chez Homère, hein, dans les épopées homériques, l'idée du mort qui se lève de son tombeau. Et ici, évidemment, c'est une image, hein, mais Chénier représente devant les yeux de ses collègues, hein, qui sont les autres orateurs. Là, il fait un discours pour aller dans le sens de la dépanthéonisation, donc pour convaincre, l'Assemblée de décider de retirer les cendres de Mirabeau, le corps de Mirabeau du Panthéon. Et donc il fait figurer Mirabeau comme dans un tribunal, c'est-à-dire l'âme de Mirabeau se réveille et vient à son procès, en fait. Ce qu'il veut vraiment faire, hein, dans la citation que j'ai lue, c'est pour ça que je l'ai choisie, c'est que pour moi c'est vraiment à la fois une citation qui est aussi un petit peu métadiscursive, hein, sur l'éloquence. C'est une réflexion qui réfléchit, enfin un discours qui réfléchit sur qu'est-ce que c'est qu'un orateur. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que dans les discours de la Révolution française, on a à la fois la pratique de l'éloquence et en fait une réflexion théorique sur la rhétorique. Qu'est-ce que c'est le bon orateur ? Ça peut pas être seulement celui qui parle bien, c'est aussi celui qui est intègre. Alors évidemment, le problème de ça, c'est que tout le monde se réclame de l'intégrité et que tout le monde accuse son ennemi ou son adversaire politique de ne pas être intègre. Évidemment, on le voit bien.
Et puis Mirabeau devient du coup une figure un peu honnie, hein, détestée. Alors là, pour le coup, dans tous les camps, hein, puisque même chez Olympe de Gouges, il y aura l'idée que Mirabeau était certes éloquent, mais justement, il a utilisé l'art de l'éloquence à de mauvaises finalités. Donc ça devient une figure repoussoire, finalement.
Avec Mirabeau, grand orateur du début de la Révolution. Enfin, on a quand même ce Mirabeau encore aux États généraux à Versailles qui prend la parole. Mais nous sommes aussi à un moment, et c'est en cela que ce processus, ces transformations sont intéressantes, où l'on voit la parole des femmes non pas apparaître, et c'est peut-être important de le rappeler que les femmes avaient déjà la parole auparavant, toujours dominée comme une évidence, mais elle apparaît d'une autre manière. Où ont-elles la parole, ces femmes, pendant la Révolution ? Parce que être élue, ce n'est pas possible. Oui. Donc être députée, ce n'est pas possible.
Alors elles prennent la parole par les placards, là, les affiches, hein, comme je l'ai dit, et aussi elles fondent. Il y a quand même des sociétés mixtes, hein, qui existent. Donc par exemple Anne-Joseph Théroigne de Méricourt, hein, elle fonde avec Charles Gibert Rome la Société des Amis de la Loi, et qui est un club mixte. Donc elles ont quand même la parole dans ces clubs politiques. Et puis une femme comme Manon Rolland, donc là, femme de ministre, hein, elle a quelque part aussi parole à travers les salons, hein, elle reçoit évidemment tous les hommes politiques influents de son temps, et elle participe même à l'écriture, hein, des discours de son mari. Donc il y a une collaboration intellectuelle, hein, de Manon Rolland, qui est une femme particulièrement cultivée là pour le coup, et qui est donc met son intelligence aussi au service de l'art de la parole de son mari,
mais qui est dans la continuité des salons d'ancien régime.
Tout
avec
à fait,
Madame
et qui
est,
du coup, et pour le coup, alors là on n'est pas dans les mêmes catégories sociales aussi, hein, évidemment. Manon Rolland, c'est quand même une catégorie aisée, hein, contrairement à Olympe de Gouges ou à Anne-Joseph Théroigne de Méricourt. Donc elle reste quand même, c'est cette logique de salon, même si bon, ce sont des salons où on parle motion, hein, loi, etc. Hein, mais ça reste une c'est pas une femme publique. Tout de même, Manon Rolland, elle ne se présente pas telle une femme publique. Donc il y a quand même ce gouvernement, encore quelque part des cabinets, au sens de cabinet ministériel cette fois, donc un peu ce gouvernement de l'ombre. Tandis que des femmes donc comme Anne-Joseph Théroigne de Méricourt, Pauline Léon, Claire Lacombe, là il y a volonté d'être une femme politique publique, quoi, de s'assumer, de prendre part activement aux événements, hein, de la Révolution.
Et avec un nouvel espace pour prendre la parole, ce sont les clubs.
Citoyen président, il y a là une jeune citoyenne qui veut déposer une motion.
Qui est cette citoyenne, huissier ?
La demoiselle Théroigne de Méricourt. Oh !
Si c'est elle, qu'elle entre. Ah, là, voilà. Oh ! Mais c'est la reine de Saba qui vient voir le Salomon des districts.
Merci, Camille Desmoulins. Oui, c'est la renommée de votre sagesse qui m'amène au milieu de vous. Prouvez que vous êtes Salomon, que c'est à vous qu'il était réservé de bâtir le temple, et hâtez-vous de construire un temple à l'Assemblée nationale. C'est l'objet de ma motion. Hâtez-vous d'ouvrir une souscription pour élever le palais de l'Assemblée nationale sur l'emplacement de la Bastille. Le véritable temple de l'Éternel, le seul digne de lui, c'est le temple où a été prononcée la Déclaration des droits de l'homme. Bravo ! Bravo !
Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Silence. La motion est mise aux voix.
Nous étions en 1791 au Club des Cordeliers avec Théroigne de Méricourt. Les nouveaux espaces sont là aussi. Pendant la Révolution française, on a cité les journaux, bien sûr, les clubs. Et alors là, les clubs, c'est intéressant parce que les femmes peuvent y prendre la parole, à la différence de l'Assemblée, où si elles prennent la parole, c'est en s'imposant, peut-être en criant, mais elles n'ont pas normalement l'occasion de prendre la parole. Les clubs, par contre, oui.
Voilà, elles prennent la parole et elles la prennent vraiment bien, hein, comme on a pu là l'entendre. Et chez Théroigne, évidemment, on a aussi des traces de certains discours justement qu'elle a prononcés, donc notamment un discours de 1790 aussi, hein, où elle dit vraiment « brisons nos fers, citoyennes, levez-vous ». elle propose donc une garde nationale de femmes, des Amazones. Donc elle veut vraiment, même armons-nous. Hein. Donc il y a l'idée que les femmes peuvent rivaliser avec les hommes, évidemment en intelligence, mais aussi en courage, hein, en bravoure, en force d'âme, hein, force d'âme stoïque, mais aussi en concrètement, donc en prenant les armes. Et on a des exemples, hein, par exemple les sœurs Ferning, hein, qui ont pris les armes dans les bataillons. Donc voilà, ça c'est une idée évidemment importante qui traverse les clubs.
Hélène Parent.
Oui, alors pour rebondir sur cette question des femmes, les femmes elles prennent la parole en tant que, comme les personnes que tu as citées, les femmes ce sont aussi des personnages fictifs dans la presse populaire. Je parlais du père Duchesne. Eh bien, il y a aussi tout un ensemble, en fait. Bon, le père Duchesne de Hébert, hein, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de cette presse populaire, avec énormément de journaux comme ça qui mettent en scène des personnages qui font des discours et qui parlent dans le journal lui-même, un peu comme des petites pièces de théâtre. Hein. Et en fait, les femmes dans ces, alors les femmes sous la forme de masques fictifs, hein, mais ont la parole. Dans certains de ces journaux, notamment je pense à la mère Duchesne, hein, qui est la femme du père Duchesne, mais qui alors il y a plusieurs journaux mère Duchesne qui apparaissent dans différents camps politiques, hein, toujours, mais dans un de ces journaux, je pense à un exemple que je lisais récemment, il y a justement une prise de parole dans un club, la scène se passe dans un club, et une femme prend la parole pour proposer de faire un club interdit aux hommes. Donc il y a déjà un peu le, voilà, enfin évidemment qui est un peu présenté sous forme comique aussi, hein, mais qui est quand même, il y a déjà cette idée un peu de pourquoi pas la non-mixité finalement, voilà, donc c'est vraiment aussi un espace où les femmes peuvent prendre la parole.
Tout à fait. Après, ouais. Malheureusement, c'est plutôt l'inverse qui se crée, puisqu'après, les femmes sont interdites de club, hein, donc oui, c'est plutôt, voilà. Là, elles sont privées de parole. Mais en revanche, ce qui est intéressant, là, ce que tu viens de dire, Hélène, c'est que, donc la presse, là, que tu viens de citer, mais aussi dans la presse royaliste, alors là, il y a des journaux assassins, hein, contre Anne-Joseph Théroigne de Méricourt. D'ailleurs, le nom, hein, de Méricourt, en fait, c'est la presse royaliste qui lui donne ce nom parce que ça, c'est pour déformer, hein, Marcourt, son village. Donc elle est vraiment toujours présentée comme une furie, une sanguinaire. Donc voilà, la presse royaliste est assassine envers Anne-Joseph Théroigne de Méricourt et envers aussi Germaine de Staël, hein, qui évidemment est toujours l'objet de c'est la mauvaise femme, la mauvaise amante, c'est en fait tous les caricatures possibles. La parole des femmes est sans cesse discréditée. Elles sont présentées comme des folles, comme des sanguinaires ou comme des femmes, soit elles sont trop belles, soit elles sont trop laides, enfin bref, ça va jamais, quoi.
Et en même temps, j'ajoute à ça qu'on a aussi le paradigme inverse dans la presse royaliste, la presse populaire royaliste, où on voit des femmes qui, au contraire, sont garantes d'une sorte de bon sens féminin. Alors évidemment, tout ça est un cliché, voilà, mais un cliché de genre, mais d'une sorte de bon sens féminin. Donc les femmes, elles vont défendre l'ancien régime, elles vont défendre notre bon roi, le catholicisme, etc. Elles sont présentées comme telles par les royalistes, par les auteurs, enfin les journalistes royalistes, pour montrer que finalement, c'est le bon sens féminin qui va calmer un petit peu. On a aussi des mères Duchesne, hein, des exemples de mères Duchesne qui calment un peu leur mari fougueux, révolutionnaire, un peu...
Disons voilà, qu'il y a les deux, parce qu'il y a aussi les tricoteuses, donc il y a aussi les femmes peuple violentes, enfin dans l'imaginaire, hein, voilà. et parfois dans le réel aussi, hein. Théroigne, elle est quand même fessée publiquement par des femmes jacobines, hein, donc il y a aussi cette violence des femmes qui, voilà, on peut pas, il faut être dans la complexité, il n'y a pas de manichéisme sous la Révolution, puisque voilà, les femmes, elles sont présentées soit comme des conservatrices, soit au contraire comme comme une violence de la Révolution.
Les tricoteuses qui sont dans les tribunes de l'Assemblée, voilà, en train de tricoter et de commenter tout ce qui se passe et de prendre la parole s'il y a besoin. Avec l'évocation de la presse royaliste, c'est intéressant ici peut-être d'évoquer l'éloquence contre-révolutionnaire. Parler de l'éloquence révolutionnaire, c'est une chose et c'est passionnant, mais ça ne se comprend pas sans ce qui se passe en contraire.
Tout à fait. Et il y a un texte de la Harpe qu'on n'a pas encore cité qui s'appelle Du fanatisme, donc de la langue révolutionnaire. Donc effectivement, tous les contre-révolutionnaires, donc les royalistes, la Harpe, mais aussi Joseph de Maistre, hein, vont précisément s'attaquer à la langue révolutionnaire. Pour eux, le mal, c'est la langue, hein, c'est-à-dire justement la création de nouveaux mots, la création d'expressions. Et pour eux, ils ont... Dans l'optique, hein, des royalistes et des contre-révolutionnaires, cette langue est pervertie, hein, et donc ils condamnent évidemment cette nouvelle langue régénérée, langue révolutionnée, qu'au contraire exalte des personnages comme Mercier, hein, Louis-Sébastien Mercier, qui lui évidemment est plutôt du côté de la Révolution, en tout cas du côté des Girondins.
Oui, et il y a énormément cette... Enfin, on l'observe, alors chez les... Bon, ça dépend ce qu'on appelle contre-révolutionnaires, là aussi, il y a plusieurs... Oui. Il y a différents courants. Il y a évidemment des royalistes de la première heure, bon voilà. Puis il y a aussi, après Thermidor, des gens qui sont pas forcément royalistes, mais qui vont associer la violence révolutionnaire pendant une période qu'on appelle la terreur, bon, qui est en fait la période du gouvernement révolutionnaire, c'est plus compliqué que ça, là encore, mais qui associe vraiment la violence... Enfin, une violence verbale... prétendu, avec la violence politique, la guillotine, l'image de la guillotine. Bon, et en réalité, on observe, alors ça, bon, voilà, on a retenu, c'est pour ça aussi qu'on a retenu beaucoup Robespierre, Sanguinaire, avec des discours très violents. Bon, en fait, tout ça, évidemment, relève de l'imaginaire. Hein. En réalité, la langue révolutionnaire, elle devient, alors, violente, je ne sais pas, mais en tout cas, elle devient exaltée, elle devient passionnée dans les périodes de crise politique, évidemment, quel que soit le camp politique qui manie la langue. Et il faut aussi se méfier d'une chose, hein, c'est que, évidemment, la langue, l'éloquence délibérative, c'est pour prendre des décisions, c'est pour agir, mais en même temps, il ne faut pas assimiler la violence et le discours. On ne tue pas en faisant un discours.
Et tout à fait, c'est très juste ce que tu dis, Hélène, et en plus, il y a cette idée justement que l'éloquence, c'est la raison exaltée. Et il y a une forte valorisation au 18e à la fin du 18e, et même sous la plume de Germaine de Staël, de justement l'enthousiasme, l'éloquence comme chose qui porte les foules, mais qui sont positives aussi.
Oui, et puis il y a de quoi être exalté en 1792. Oui. En juillet, la patrie est en danger. En août, c'est la prise des Tuileries. Le pauvre roi Louis XVI qui est obligé de fuir. Et en septembre, Danton prend la parole.
Il est bien satisfaisant, messieurs, pour les ministres du peuple libre, d'avoir à lui annoncer que la patrie va être sauvé. Tout s'émeut, tout s'ébranle, tout brûle de combattre. Paris va seconder ses grands efforts. Les commissaires de la Commune vont proclamer d'une manière solennelle l'invitation aux citoyens de s'armer et de marcher pour la défense de la patrie. C'est en ce moment, messieurs, que vous pouvez déclarer la capitale a bien mérité de la France entière. C'est en ce moment que l'Assemblée nationale va devenir un véritable comité de guerre. Nous demandons que vous concouriez avec nous à diriger ce mouvement sublime du peuple en nommant des commissaires qui nous seconderont dans ces grandes mesures. Nous demandons que quiconque refusera de servir de sa personne de remettre ses armes, soit puni de mort. Le tocsin qu'on va sonner n'est point un signal d'alarme. C'est la charge des ennemis de la patrie. Pour les vaincre, messieurs, il faut de l'audace. Encore de l'audace. Toujours de l'audace. La France a sauvé.
Danton à la tribune de la Convention le 2 septembre 1792, et puis après c'est la victoire de Valmy, et puis c'est la République. Dans cette histoire de l'éloquence, on a des moments d'anthologie comme celui-là, et on pourrait les lister, hein, tous ces moments forts de la Révolution qui se racontent par des citations toujours associées, ou en tout cas souvent associées à une idée de discours. Les historiennes que vous êtes sont également des historiennes du corps, au sens où l'éloquence est portée par des corps. Est-ce que il est possible de trouver des traces? Comment on construit cette histoire-là? La manière de dire, la posture, les réactions même du public. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous cherchez et qui est facile à écrire?
On en a des traces. Alors, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas d'enregistrement de film ou de quoi que ce soit, donc on en a des traces qui sont évidemment soumises à caution, voilà. Mais on a des traces. Alors, des réactions du public, on a énormément de traces dans les journaux, dans les comptes rendus. Hein. On a les comptes rendus qui se présentent sous la forme de la transcription du discours ou des interventions, et on va avoir entre parenthèses comme des didascalies, murmure à droite, cri à gauche. Alors, c'est à ce moment-là qu'apparaissent d'ailleurs les notions de droite et de gauche qu'on connaît bien aujourd'hui, où crient dans les tribunes. Voilà, bon, donc tout ça, on en a des aspects. Par rapport au corps, évidemment, on a des descriptions. Alors, le problème de ça, c'est qu'on a des descriptions dans les, à la fois dans les mémoires de l'époque, puis dans les histoires de la Révolution française au XIXe siècle, et dans les romans, bien sûr. Je pense à 93 de Hugo, évidemment, où on voit tous ces grands orateurs, Danton, Marat, Robespierre, Mirabeau, et les grands morceaux d'anthologie. Hein, nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes, par exemple, de Mirabeau. Alors, les corps, bon, on retient surtout, évidemment, Danton, Mirabeau, qui étaient, par ailleurs, réputés pour être très moches, hein, donc, et ce qui leur donnait un charisme particulier. Après, tout ça est très mythifié. Il faut quand même se méfier un peu de... voilà, tout est très mythifié. Mais en même temps, tous ces orateurs connaissaient très bien aussi les théories antiques de l'action oratoire, c'est-à-dire de la maîtrise de la voix, de la gestuelle, du regard. Et le corps, c'est très, très important, effectivement, dans l'éloquence.
Puis c'est vrai que même on a des portraits quand même d'eux aussi. Oui. Même donc le corps de Mirabeau ou le corps de Danton, hein, est un corps charpenté, volumineux, hein, tandis que le corps de Robespierre est plus fluet. Il paraît que Robespierre s'exprimait mal à la tribune, surtout en ses débuts. Donc il y a aussi, on peut se représenter quand même, il y a aussi la façon dont on doit répartir les voix. Hein, il y a beaucoup de textes, la technique sur la façon dont certains orateurs, qui justement on les entend pas très bien, hein, donc ils sont pas très bons orateurs, eh bien il faut que leur voix porte davantage. Donc
il y a des
traités et des systèmes comme ça, un peu presque d'acoustique. Donc ça nous permet d'avoir une idée de cette dimension très très physique, vous avez raison, de la parole.
Hélène Parent, vous êtes là. Co-directrice d'un ouvrage intitulé « Le deuxième âge de l'éloquence » avec Alain Vaillant. Deuxième âge de l'éloquence, 1750-1870. Alors déjà, c'est quoi le premier âge ?
Alors c'est en référence à un ouvrage de Marc Fumaroli qui s'appelle « L'âge de l'éloquence » qui est plutôt sur fin 16e, 17e siècle. Donc il y a un petit jeu de retournement dans le titre. Le deuxième âge de l'éloquence qu'on fait commencer un petit peu avant la Révolution, justement pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, avec cette transformation vis-à-vis de la définition de l'éloquence. Et puis qu'on va mener jusqu'à... Alors bon, on a pris des délimitations qui sont évidemment pas précises, hein, mais jusqu'en 1870, jusqu'à la Commune, hein, avec l'idée que finalement, la Révolution française et ce qui la précède, les changements qui la précèdent, forment finalement une matrice pour tout le 19e siècle, qu'on surnomme parfois le siècle des révolutions, puisque on le voit très bien dans les révolutions suivantes, en 1830, en 48, puis encore au moment de la Commune, l'éloquence de la Révolution française reste une matrice, alors que ce soit pour l'imiter, ou au contraire pour s'en éloigner, comme par exemple Vallès, qui critique beaucoup tout ce style révolutionnaire qui sent trop l'école, qui sent trop le latin, qui sent trop justement l'éloquence scolaire, mais qui en même temps réinvestit lui aussi cette éloquence-là. Donc ça reste un modèle, une matrice fondamentale.
Et puis s'ils le font commencer un peu en amont, c'est aussi parce que justement, donc on y revient, mais pardon, c'est juste, hein, parce que Rousseau devient aussi le modèle de cette éloquence. Et il y a un texte de Mercier qui s'intitule justement « De Jean-Jacques Rousseau, considéré comme l'un des premiers auteurs de la Révolution ». Donc là, on est en 91, et voilà ce que Mercier écrit. « L'éloquence de Jean-Jacques Rousseau contraste avec celle des écrivains de son siècle. Elle ne marche point avec une froide majesté ou armée de pointes et d'épigrammes. Elle fait jaillir la pensée et le sentiment, parce qu'elle est le résultat du génie, du sentiment et de l'esprit fondus ensemble. Elle est souple et nous enchante par tous les tons qui, dans son style, se mêlent sans discordance. La grâce et la clarté sont répandues partout et l'inépuisable variété des tours répond à cette multitude d'idées qui se pressait sous la plume de l'écrivain. Il pense sans effort et avec une plénitude et une richesse d'expression qui annoncent une source intéressable et profonde. »
Nous étions en 1791 avec ce texte et on voit bien que le deuxième âge de l'éloquence, et je reprends le titre de votre ouvrage Hélène Parent, c'est ce siècle des Lumières, c'est avant que la Révolution, c'est un moment. Et l'émotion, on a commencé l'émission avec cette émotion-là, elle continue après. Est-ce qu'on va retrouver ici, dans ce qui suit, je pense au romantisme, eh bien l'héritage de cette éloquence révolutionnaire ? On a croisé Madame de Staël.
Sans doute, avec cette idée donc de style de l'âme, qu'il faut une concordance aussi entre sa vie et son style. Ça, c'est effectivement des choses qui... Bon, alors, on n'aime plus trop parler de catégories pré-romantiques, etc., mais c'est quand même, en tout cas, une sensibilité, hein, de Rousseau à Germaine de Staël, qui est évidemment un fil continu. Donc, il y a cette idée, et puis cette dimension sacrificielle aussi, hein, le sacrifice de soi, y compris jusqu'au suicide, hein, qui est quand même une dimension forte, évidemment, des textes de Manon Roland ou d'autres, hein, ou de l'homme de Gouges, et qui, bon, si on pense à Werther, ou en tout cas, cette dimension du suicide, hein, c'est quelque chose qui est très présent encore dans l'âme romantique, si l'on veut.
Et puis l'importance d'être intègre, hein. Hélène Parent, je retiens ce qui a été dit. C'est pas tout de bien manipuler la langue, de maîtriser la rhétorique et l'éloquence. Faut être honnête dans ce qu'on dit.
Oui, oui. Et d'ailleurs, juste, je termine peut-être là-dessus, mais sur la question du romantisme. Alors, le romantisme, c'est quelque chose qui est assez, voilà, c'est pas, il y a plusieurs manières de le définir, mais il y a aussi, issu de la Révolution, cette figure de l'écrivain, du poète engagé, hein, qui en est aussi issu. Et c'est pour ça que Hugo, par exemple, fait énormément référence aux orateurs révolutionnaires, qui sont aussi des matrices, des modèles d'éloquence et d'engagement.
Et c'est le plaisir de relire tous ces textes, hein, des orateurs, des oratrices de la Révolution. Merci beaucoup à toutes les deux. Hélène Parent, je rappelle, hein, cet ouvrage, le deuxième âge de l'éloquence, avec suite de lecture aussi moderne Cicéron, la romanité des orateurs révolutionnaires. Et merci beaucoup Élise Marie Guilbert, Olympe de Gouges, une femme dans la Révolution. On va continuer à réfléchir, hein, sur cette posture et l'utilisation du discours dans le prochain épisode du cours de l'histoire, toujours en quête de l'utilisation de la parole pour séduire les foules. La rhétorique fasciste et le discours fâcheux, comment fonctionne la rhétorique de Mussolini, la rhétorique d'Hitler, avec évidemment le dictateur.
Kraut mit der Juden. Und der Leberwurst mit der Juden. Ey, der Flützensekteiler mit der Juden. Ey, der Flutensekteiler. Das Strängelchen mit der Flutensekteiler. Und der Blitzensekteiler. Besick, besack. Der Juden. Und der
Juden. Son Excellence vient de dire quelques mots sur le peuple juif.
Le dictateur de Chaplin, évidemment, c'est le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Thomas Boeck, aujourd'hui à la technique Édouard Rubinstein. Émission préparée par Tom Hundenstock, Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Lalou, Maël Vincent Randonnier et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.